c'est les cinq niveaux de l'esprit. Et c'est basé, le thème est basé sur cette, entre autres, cette citation d'Abdu'l-Bahá. L'universalité de l'esprit se divise en cinq catégories. L'esprit végétal, l'esprit animal, l'esprit humain, l'esprit de foi et l'esprit saint. Maintenant, quand on parle des niveaux, il faut comprendre d'abord qu'il y a deux sortes de catégories de niveaux. Il y a des niveaux qu'on peut qualifier d'ontologiques, c'est-à-dire ce sont des différences inhérentes, des différences de nature même. Et il y a des différences non ontologiques qui sont des différences de degré, comme entre un chien sauvage et un chien bien domestiqué, par exemple. C'est une différence de degré. Mais il ne faut pas, penser que les différences de degré sont négligibles. Parce que, par exemple, Bahá'u'lláh parle de la différence entre un homme vraiment un malfaiteur, n'est-ce pas, un homme qui est peut-être un tyran ou vraiment un malfaiteur et un homme qui est un saint. C'est une différence de degré, mais c'est une différence de degré tellement grande que c'est presque la même chose qu'une différence ontologique. Par exemple, nous savons qu'il y a une différence ontologique entre nous et la manifestation. Mais Abdu'l-Bahá est un être humain ordinaire. Donc la différence entre nous et Abdu'l-Bahá est une différence de degré. Ce n'est pas une différence ontologique. Mais quelle différence entre nous et Abdu'l-Bahá quand même, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas penser simplement, quand on parle de ces deux catégories, que les différences de degré sont, peuvent être négligées et considérées comme moindres dans leur, dans leur apport, n'est-ce pas? Mais si je soulève cette chose un peu philosophique, c'est pour la raison suivante. Depuis le début de la pensée humaine, il y a eu plusieurs grands débats. Et un des grands débats, c'est entre le dualisme ou le pluralisme et le monisme. C'est-à-dire, est-ce que tout est une chose qui se manifeste de différentes façons, ou est-ce qu'il y a fondamentalement des choses différentes, n'est-ce pas? Donc, dire qu'il y a fondamentalement des choses différentes, c'est un pluralisme ou un dualisme ontologique, si vous voulez, ok. Et le monisme, c'est de dire non, mais tout est la même. Toutes les différences sont des différences de degré, si vous voulez. Ça, c'est le monisme. Que toutes les différences sont, en fin de compte, les différences de degré. Qui peuvent être, encore une fois, extrêmement grandes, mais quand même, ce sont des différences de degré. Le dualisme est associé plutôt à la tradition judaïque, chrétienne, islamique, où on parle du monde spirituel, du monde matériel, du bien et du mal de façon très tranchée, n'est-ce pas, en fait, les 10 commandements, ou dans l'Église catholique, les péchés capitaux, si vous faites ça, vous allez à l'enfer, etc. Enfin, ben, bref, c'est vraiment ce dualisme, cette distinction très, très tranchante entre ce qui est le bien, ce qui est le mal, ce qui est spirituel, ce qui est matériel, etc. L'autre tradition hindoue, bouddhique, etc., de l'extrême-orient, est plutôt moniste. Et là, on ne fait pas les distinctions tranchées. On dit que chaque chose reflète toute autre chose, que tout est lié. Donc le malfaiteur, ils ne vont pas parler de malfaiteur, ils vont parler d'un homme qui n'est pas encore éveillé, dont la conscience n'est pas encore éveillée. etc., etc. Mais c'est un homme quand même, en fait. Donc pour eux, toutes les différences sont les différences de degré. Et donc l'idée, par exemple, que les chrétiens ont de Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu, que c'est un autre niveau qu'un être humain ordinaire, c'est pas du tout dans la pensée bouddhique. Pour eux, Bouddha, par exemple, était un homme ordinaire qui a été éclairé, enfin, et il nous montre le chemin, mais tout le monde peut atteindre ce que le Bouddha a atteint, n'est-ce pas, en fait. Alors, le Abdu'l Baha et la foi Baha'i tranchent cette question en faveur du dualisme ontologique, et ça c'est très très clair, mais en même temps, c'est tout à fait clair que la plupart des différences sont des différences de degré. C'est-à-dire que les différences ontologiques sont essentiellement quatre niveaux. Il y a l'essence de Dieu, okay, qui est un niveau. Il y a l'Esprit Saint, ou les attributs de Dieu, ou la parole de Dieu, ou la première volonté, comme vous voulez l'appeler. C'est tous des noms qui paraissent dans les écrits bahaïens. C'est l'unique chose engendrée par Dieu, directement par Dieu, sans intermédiaire. Cet esprit, cette volonté première, se manifeste dans les manifestations. Et puis, il y a l'être humain, le niveau de l'esprit humain, et il y a le monde matériel. Donc, il y a quatre niveaux ontologiques dans la foi Baha'i. Et ça, c'est très clairement dit. Il y a un passage que vous connaissez tous sans doute dans les leçons de Saint Jean d'Acre où Abdu'l Baha dit, il dit, il y a trois rangs et trois rangs seulement. Il y a le rang de servitude, le rang de prophète et le rang de Dieu. Et il dit, il ne peut pas y avoir d'échange entre ces niveaux. Aussi loin qu'un homme puisse évoluer, il ne peut jamais devenir un prophète. Le prophète, la manifestation, ne peut jamais devenir Dieu. Donc ce sont des différences absolues, ontologiques, inhérentes à la nature même. Et comme Abdu'l Baha dit, il peut y avoir progrès au sein d'un rang, mais pas changement de rang. Il ne peut pas y avoir évolution d'un rang à un autre rang. Encore une fois, l'homme ne peut pas devenir prophète. Donc ça, c'est trois niveaux, c'est pas quatre. Le quatrième, c'est simplement le monde matériel. Et je vais dire encore quelques mots là-dessous. Mais vous trouvez ça surtout dans les causeries à Paris où il explicite ces choses-là. Alors je vais peut-être expliciter ça et puis je vais à ce moment-là parler des cinq niveaux de l'esprit. D'abord, tout est esprit. Ok? Tout est esprit, c'est-à-dire que le monde matériel, nous le savons maintenant, que tout phénomène matériel est la manifestation de ce que nous appelons énergie, n'est-ce pas? Et cette énergie, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un esprit, n'est-ce pas? C'est l'esprit matériel. Le propre de l'énergie matérielle, c'est qu'il peut être converti en matière. À cause de l'équation d'Einstein, n'est-ce pas? Le fameux E égale à mc au carré. Ça donne la loi qui donne l'intertransformation entre la matière et l'énergie. Donc l'esprit matériel. L'énergie, c'est l'esprit matériel, si vous voulez. Et le propre, donc selon la science, et Abdu'l Baha ne nie pas ça, il parle aussi de matière universelle. Donc, la matière universelle a toujours existé, mais des objets particuliers n'ont pas toujours existé. Les objets particuliers dans le monde matériel ont un commencement et une fin. Mais la matière universelle, c'est-à-dire l'énergie physique matérielle, a toujours existé. Et c'est le plus bas niveau ontologique. C'est-à-dire, c'est un peu consolant. il n'y a pas un monde pire que ce monde-ci. Okay? Non, mais c'est ça, ok. C'est vraiment le bas de l'échelle. Dieu n'a pas fait un monde plus cru, si vous voulez, que ce monde-ci. Et la caractéristique de la matière universelle, dit Abdu'l-Bahá, c'est sa passivité. Il dit que, et Baha'u'llah répète ça aussi dans les tablettes de Baha'u'llah, que le monde, enfin le phénomène du monde a été créé par l'action de la force active sur ce qui le reçoit. Alors, cette force active est l'esprit, si vous voulez, et la chose passive qui le reçoit, c'est la matière. Donc, on n'est pas loin, si vous voulez, du modèle d'Aristote. on peut penser de la matière comme de l'argile, et l'esprit de Dieu, la main de Dieu, façonne cette argile, n'est-ce pas? Ça donne sa forme, n'est-ce pas? Enfin, c'est très cru, mais en fait, c'est essentiellement la même chose. Donc, mais ce qui est important, et ce que Abdu'l-Bahá dit très explicitement, c'est que la matière en soi n'a aucun pouvoir d'avancement, ou de progrès, ou de changement. Il est inerte, il est complètement passif. Ok. Et d'ailleurs, quelle est la mesure de la matière? C'est la masse, n'est-ce pas? Depuis Newton, enfin, c'est ça, la mesure de la matière, c'est masse. Et qu'est-ce que c'est la masse? C'est la résistance au changement. C'est la loi de Newton, n'est-ce pas? Plus que la masse est grande, plus que ça prend une grande force pour bouger la chose, n'est-ce pas? Donc, la masse est une mesure, ça s'appelle la masse inertiale, ok? Il y a aussi la masse gravitationnelle, mais Newton suppose, et Einstein suppose que c'est la même chose, ok? La masse inertiale et gravitationnelle. Donc, le poids d'un objet, la masse gravitationnelle, représente aussi sa résistance au changement. Donc, quand on amasse les choses, on décroît notre capacité de changer. C'est sans doute une des raisons que la modération dans les biens matériels est conseillée, n'est-ce pas? Parce que le fait d'amasser des choses matérielles nous empêche de changer. Parce que la propriété essentielle de la matière, c'est d'être inerte, d'être là, de peser et de ne pas bouger. Okay? Abdu'l-Bahá dit que tout ce que nous appelons progrès dans le monde matériel est le résultat de l'action de l'esprit sur le monde matériel. Okay? Donc, la force active est toujours l'esprit. Ok. Alors là, il dit que cet esprit, dans le monde matériel, a quatre niveaux, ou trois niveaux, ici, trois niveaux. L'esprit végétal, il dit, est l'esprit de croissance, c'est le développement. Un rocher ne se développe pas, n'est-ce pas? Le rocher est simplement là, n'est-ce pas? Ça absorbe de l'énergie, ça rayonne de l'énergie, mais ça ne se transforme pas, n'est-ce pas? Tandis qu'une plante a une vie, elle croît, elle se développe, n'est-ce pas? Et, puisque la matière n'a aucun pouvoir inhérent de se développer, ce développement de croissance chez les végétaux, c'est l'action d'un certain esprit sur la matière. Et cette forme d'esprit est ce que Abdu'l-Bahá appelle l'esprit végétal. Ensuite, il a l'esprit animal. Et encore une fois, c'est cumulatif, c'est-à-dire chaque niveau comprend tous les niveaux inférieurs. Donc, en plus du pouvoir de croissance, l'animal a aussi la sensibilité, les yeux et tout ça, en fait, qui veut dire qu'il peut interagir avec le monde, et la puissance de locomotion, n'est-ce pas, en fait. La plante est toujours enracinée quelque part, elle n'a pas ce pouvoir. Mais l'animal a aussi le pouvoir de croissance qu'a la plante. Donc, l'animal est strictement supérieur à la plante, si vous voulez. Okay? Il est strictement supérieur. Donc, c'est un esprit, si vous voulez, un autre niveau de l'esprit. Mais tous ces niveaux sont, comme vous comprenez bien, des différences de degré, pas des différences ontologiques, parce que tout le monde matériel est à un même niveau ontologique. Toute chose matérielle est intertransformable dans toute autre chose matérielle. Le principe d'existence dans le monde matériel de Yabuba, c'est la composition. Il dit, chaque être matériel est déterminé par les éléments qui en font partie et la relation entre ces éléments, c'est-à-dire la façon que ces éléments sont composés. Il dit, une fois que vous avez cette composition, vous avez cet être. Cet être est déterminé par sa composition. Donc, si vous rassemblez dans les proportions justes tous les éléments qui font un chien, vous aurez un chien. Un chien n'est rien d'autre que la composition de ces éléments qui réagissent ou qui sont capables donc de réagir à cet esprit animal, n'est-ce pas? Maintenant, il faut dire aussi que à ce niveau-là, l'esprit est générique, c'est-à-dire il n'a aucune idée que les plantes ont une âme ou les animaux ont une âme, que certaines personnes, enfin, pensent ou enfin c'est une idée, n'est-ce pas, que les animaux surtout peuvent avoir des âmes et tout ça. Donc cet esprit végétal est générique, c'est-à-dire c'est universel, c'est le même esprit qui anime tous les végétaux, n'est-ce pas? Il n'est pas un esprit spécifique à une plante quelconque. Même chose pour un animal. L'animal n'a pas d'âme. L'esprit animal est donc un esprit générique. Ensuite, il y a le troisième niveau dont il parle, c'est l'esprit humain. Et ça, c'est évidemment l'esprit humain, c'est l'âme de l'individu. C'est-à-dire ici, au niveau humain, nous avons l'esprit générique et spécifique. C'est-à-dire l'esprit générique, c'est l'esprit de l'humanité, c'est l'esprit qui produit les facultés de l'homme, ok. Et quelles sont ces facultés? Bon, d'abord, on cumule tout ce que l'animal et la plante peuvent faire, n'est-ce pas? Mais l'homme peut faire des choses que l'animal ne peut pas faire, à savoir, il peut traiter l'énergie sous forme d'informations abstraites. Chaque fois que je donne un cours sur ces choses-là, je demande à mes élèves, à un moment donné, de point de vue purement observable, n'est-ce pas? Je ne parle pas de l'âme, l'esprit, connaissance de Dieu, toutes ces choses-là. De point de vue strictement observable, scientifique, nommez-moi une capacité de l'homme que l'animal n'a pas. Habituellement, les gens vont dire l'intelligence de l'homme et tout ça. Je dis, ok, mais les animaux ont une certaine forme d'intelligence, ça c'est évident, n'est-ce pas? Personne ne peut le nier. Alors, de quelle manière est-ce que l'intelligence de l'homme se reflète, qui le distingue absolument de l'animal? Alors, généralement, les gens ont beaucoup de peine à dire exactement, ils disent, mais on est quand même plus intelligent, n'est-ce pas? D'accord, mais comment ça se reflète? Alors, comment? Le raisonnement, mais qu'est-ce que c'est le raisonnement? C'est-à-dire, finalement, c'est la capacité, c'est-à-dire, on peut faire cette hiérarchie en voyant les transformations d'énergie dont sont capables les différents niveaux. Un rocher peut simplement absorber de l'énergie ou refléter l'énergie, rayonner l'énergie, comme un rocher qui est chauffé par le soleil et puis qui se refroidit la nuit. La plante peut faire, par exemple, la photosynthèse. Elle peut utiliser l'énergie solaire et l'eau et les minéraux pour complexifier sa propre structure. Ça, c'est la croissance. Donc, la plante peut aussi absorber et rayonner de l'énergie, comme le tronc de l'arbre va être chaud une bonne journée d'été, ça va être froid à cette saison-ci, n'est-ce pas? Donc, il aussi peut faire ce que le minéral peut faire. Mais le minéral ne peut pas utiliser l'énergie pour transformer ou complexifier sa propre structure, tandis que la plante peut le faire. Donc, encore une fois, c'est cumulatif. L'animal peut aussi utiliser l'énergie de cette forme-là pour complexifier sa structure. Quand il mange et tout ça, il se développe. Mais il peut aussi utiliser l'énergie pour se diriger, par exemple, sentir, etc. Il peut se diriger, il peut voir, etc. C'est l'énergie, c'est des photons de lumière qui viennent dans ses yeux. Vous pouvez envoyer les photons de lumière sur la plante. Sauf pour la photosynthèse, la plante ne peut pas répondre à l'image. N'est-ce pas? Mais l'animal va répondre à l'image qui dégage par les photons. Bref, il peut voir, n'est-ce pas? Alors, l'être humain peut faire toutes ces transformations, mais seul l'être humain peut traiter l'énergie sous forme d'informations abstraites. Alors, peut-être ça vaut la peine d'expliquer ça. Parce que c'est quand même important pour voir comment ça se raccorde avec la science. L'animal est intelligent. Et d'ailleurs, c'est un débat qui fait rage encore dans la communauté scientifique. Il y a bien des gens qui disent l'homme est simplement un animal un peu plus évolué, n'est-ce pas, en fait. Comment est-ce qu'on sait que les animaux n'ont pas de conscience? Comment on sait qu'ils ne peuvent pas faire les mathématiques simplement parce qu'ils ne parlent pas, etc. En fait, il y a des gens qui défendent ce point de vue. La seule façon que j'ai réussi à décrocher une fille une fois, je pense que je vous ai déjà raconté ça, lors d'une conférence, elle était en zoologie ou je ne sais pas quoi. Et puis elle insistait, il n'avait rien à faire, elle ne démordait pas, que les singes, elle avait étudié les singes, et les singes étaient aussi intelligents que l'homme, enfin, simplement, qu'ils ne réussissaient pas à s'exprimer, etc. Bon, rien à faire. Alors finalement, j'ai dit, madame, qu'est-ce que vous préférez être? Le singe le plus intelligent qui n'a jamais existé, ou l'homme le plus bête? Elle a dit, l'homme. J'ai dit, bon, d'accord. donc, c'est quand même une reconnaissance qu'il y a un saut, n'est-ce pas? Il y a quelque chose, n'est-ce pas? Mais pour préciser ce saut, c'est simplement la chose suivante. L'animal peut recevoir de l'information, mais l'information de l'animal est concrète. Par exemple, le chien voit un homme qui avance vers lui. Alors le chien va regarder l'aspect de l'homme. Si l'homme est agressif, a l'air agressif, le chien va réagir d'une certaine façon. Si l'homme a l'air gentil, peut-être il apporte de nourriture pour le chien ou quelque chose comme ça, ou si le chien le connaît déjà, etc. Donc il va réagir de façon positive, peut-être il va aller lécher le type, enfin sauter, etc., l'accueillir, etc. Donc, le chien peut traiter de l'information, mais c'est l'information sous forme concrète, c'est-à-dire c'est l'objet même, l'homme, qui contient l'information dont le chien dispose. Maintenant, pour faire la comparaison, si donc je faisais simplement un symbole abstrait qui représentait un homme, juste un petit trait ou un point, et je vous dis, ça, Ce soir, ça c'est le symbole que nous allons utiliser pour l'homme. Juste ce petit point noir. Vous êtes pleinement capable de participer à ça, et chaque fois que vous voyez ce point, vous dites, c'est un homme. Ça, c'est l'information abstraite. C'est-à-dire, l'information que ça représente un homme n'a rien à voir avec la chose concrète elle-même. Le point n'a rien en commun avec un homme. C'est une association parfaitement abstraite. Ça, le chien ne peut pas faire ça. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas dire, ben, c'est un homme, etc. Vous pouvez les conditionner à réagir au point, mais vous ne pouvez pas le faire traiter une information abstraite. Et l'information abstraite dans le monde physique, c'est quand même une forme d'énergie, n'est-ce pas? Le point, ça représente une petite masse, enfin, sous le papier, etc. Donc, encore une fois, ça c'est de façon purement physique. Hein? Je ne parle pas de l'âme et tout ça, l'intelligence. On observe que l'homme est capable de certaines transformations énergétiques dont les règnes inférieurs ne sont pas capables. Mais nous savons, donc cette capacité-là vient de l'esprit générique humain. Okay? Ça c'est l'esprit humain que nous avons tous en commun. C'est l'essence d'être humain, c'est ce que ça veut dire être humain. Comme les caractéristiques de l'animal, c'est ce qui définit l'animal, etc., n'est-ce pas? Alors, mais il y a aussi chez l'être humain, l'âme, ou l'esprit individuel, ou ce que Abdu'l-Bahá dit, l'esprit rationnel. Donc l'âme et l'esprit rationnel, c'est la même chose. C'est la même chose. Ou l'esprit individuel, si vous voulez. Et donc, à la différence des hommes ou des plantes, l'homme a un esprit spécifique, son âme, qui est porteur de sa personnalité, de ses capacités spécifiques, n'est-ce pas? Et en tant qu'être humain, il partage un tas d'attributs avec tout le monde. Mais en tant qu'individu, en âme spécifique, nous avons chacun nos capacités qui sont dotées par Dieu, comme Bahá'í l'a dit, et qui fait que vous êtes vous et vous n'êtes pas moi. Et vous avez cette incapacité que moi je n'ai pas, et j'ai cette incapacité que vous n'avez pas. Et ça nous caractérise. Et l'animal n'a pas ça. L'animal, c'est les différences de personnalité entre les animaux, c'est strictement dû à la composition physique de leur corps et tout ça, le tempérament physique, le système nerveux et tout ça. Tu vois. C'est vraiment strictement ça. Nous avons évidemment un corps animal, donc on en a ça aussi. Mais nous avons aussi cet esprit humain qui fait qu'on peut, par exemple, interpréter de l'information abstraite et tout ça. Donc, il a l'esprit générique et l'esprit individuel. Est-ce que ça c'est clair? Parce que ça c'est un point. Et il a énormément de confusion là-dessus, dans la pensée mariée. Énormément de confusion. C'est pourquoi je prends la peine de spécifier. Maintenant, il dit, il y a l'esprit de foi et l'esprit saint. Alors, donc l'âme humaine, représente un autre niveau ontologique, n'est-ce pas? L'esprit humain, c'est ce qui fait que les corps humains sont vivants, n'est-ce pas? Mais l'âme fait de l'homme un être à un autre niveau d'existence que tout ce qui est matériel, n'est-ce pas? Donc notre corps, c'est ça, on est un hybride, n'est-ce pas? Notre corps est matériel et notre âme est spirituelle. Donc, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre ça? Notre corps est un composé d'éléments, c'est un composé. Tandis que l'âme n'est pas composée. Okay? L'âme est faite d'une substance unique. Et, comme Abdu'l-Bahá dit, l'âme est entièrement en dehors du monde physique. Donc, en réalité, même de dire que nos âmes mentent à la mort est faux, c'est-à-dire, votre âme est déjà dans le monde spirituel. Il est déjà dans le monde spirituel. Il n'est pas dans votre corps, il anime votre corps, comme le soleil anime la terre. Le soleil ne descend pas à la terre, il est toujours au ciel. Mais, par ses rayons, il illumine. De la même façon, l'âme dégage une énergie qui anime le corps. Mais, l'âme est toujours dans le monde spirituel. Il n'a jamais dans le monde physique. Parce que les objets physiques sont des composés. L'âme n'est pas une composée. Maintenant, donc ça c'est le deuxième niveau ontologique. Monde matériel, l'esprit humain, l'esprit individuel, l'âme humaine. Et je vais d'abord sauter au Saint-Esprit parce que ça c'est assez facile, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, c'est encore une fois la première volonté, la parole de Dieu, les attributs de Dieu. C'est la première chose qui se dégage de l'essence de Dieu. Et c'est donc un niveau ontologique intermédiaire entre Dieu et les hommes. Okay. Et les manifestations ne constituent pas un niveau ontologique distinct parce qu'ils manifestent la parole de Dieu. C'est-à-dire, la manifestation, c'est l'expression d'une chose dans une autre forme. Donc, littéralement, si vous voulez, la manifestation incarne. Alors, donc, tenez encore quelques secondes, j'ai presque terminé. Donc, le Saint-Esprit, c'est la première émanation de l'essence de Dieu. Et il dit, évidemment, l'universalité de l'esprit se divise en cinq catégories. Ça, c'est, sous-entendu, l'esprit dans la création. OK? Parce que Dieu est au-delà, Dieu est un esprit, mais il est au-delà de toute conception qu'on puisse faire de l'esprit ou pas d'esprit, de mouvement, etc. Donc l'essence de Dieu est unique. Donc on ne peut pas le comparer, on ne peut pas dire que c'est une catégorie d'esprit, n'est-ce pas? Parce que c'est hors catégorie, pour ainsi dire, il est unique. Mais ça constitue un niveau ontologique. Ok. Donc, quand il parle des cinq niveaux d'esprit, il veut dire clairement, enfin j'interprète un peu, mais c'est très évident, dans la création. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de l'esprit de foi? Ça, c'est une chose... est-ce que c'est un niveau ontologique? Ben, si on tient à ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il a seulement les quatre niveaux ontologiques, alors ce n'est pas ontologique. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, si on lit attentivement les écrits là-dessous, c'est clair que l'esprit de foi est un esprit qui est né de l'interaction entre le Saint-Esprit et l'esprit humain. Abdu'l-Bahá dit que l'esprit humain sans le Saint-Esprit est comme un miroir parfait dans une chambre obscure. Sans lumière. Maintenant, un miroir dans une chambre obscure peut quand même faire des choses. Hein? Elle existe. Elle peut quand même faire des choses. Mais elle ne peut pas refléter une lumière qui n'existe pas. N'est-ce pas? Donc, ça c'est l'état d'une âme qui n'est aucunement consciente du monde spirituel, c'est-à-dire c'est l'état de beaucoup de gens, n'est-ce pas, en fait. Ce sont, si vous voulez, littéralement, dans une certaine mesure, des animaux intelligents. C'est-à-dire, ils ont cette capacité de transformer l'information, de l'énergie sous forme d'énergie abstraite, mais leur esprit n'est pas du tout illuminé. Ils n'ont aucun contact avec les réalités spirituelles. Donc, l'esprit de foi, c'est l'esprit qui se dégage de l'homme quand il devient sujet, dans la mesure, relativisant la chose, dans la mesure que l'homme devient sujet au Saint-Esprit, il dégage l'esprit de foi. Donc, l'esprit de foi est ce qui est reflété, pensez à l'âme comme un miroir. Le Saint-Esprit, c'est comme les rayons de soleil qui descendent, mais quand ça frappe le miroir, ça reflète. OK, le miroir, c'est la capacité de reflète. Alors, ce qui se dégage du miroir, le reflet qui vient du miroir, c'est l'esprit de foi. C'est l'esprit de foi. C'est pas le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit filtré, si vous voulez, par une âme humaine, n'est-ce pas? C'est pas le Saint-Esprit pur, n'est-ce pas? Mais c'est quand même le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'origine de ces rayons, ou qui est ces rayons. Mais, alors ça c'est l'Esprit de foi. Donc l'Esprit de foi est intermédiaire entre l'Esprit humain et l'Esprit Saint. Et c'est une différence de degré, ce n'est pas une différence ontologique. Mais, dans une tablette, Baha'u'llah dit que néanmoins, enfin, toute la terminologie qui est utilisée dans toutes les Écritures saintes, de vie et de mort, n'est-ce pas? Enfin, quand Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts, c'est-à-dire, la vie a toujours été utilisée comme symbole de l'éveil spirituel, n'est-ce pas? Et la mort comme l'inconscience spirituelle. Alors, ces gens sont parfaitement conscients dans le sens premier du terme, ils sont conscients de leur existence et tout ça, mais ils sont inconscients de la dimension spirituelle de l'existence. Donc, toute conscience que nous avons des choses spirituelles provient de l'action du Saint-Esprit sur nos âmes. Et l'esprit qui se dégage de cette réaction est l'esprit de foi. Maintenant, il y a une tablette où Baha'u'llah parle de l'éducation. C'est dans les extraits des écrits. Et Abdu'l Baha'u'llah dit la chose suivante. Il dit, cette éducation est de deux sortes. Il dit, d'abord, aussitôt que Dieu a prononcé le mot éducateur, toutes choses ont été dotées de la capacité d'acquérir de compréhension, mais dans différentes mesures. Okay? Il dit, chez les hommes, cette éducation est de deux sortes. Une est universelle et ça reflète l'attribut de Dieu. Dieu est en vérité le créateur de tout l'univers. Et il décrit cette connaissance qui est universelle. Alors c'est très évident, si vous le lisez, que c'est la science. Il parle de la science. Donc ça ne prend pas l'esprit de foi pour être scientifique. Okay? Ça ne prend pas l'esprit de foi pour être un bon chirurgien, etc. C'est-à-dire, cette connaissance est accessible à tout le monde, peu importe la condition spirituelle de son âme, n'est-ce pas? Et il dit, la deuxième sorte d'éducation est réservée strictement à ceux qui ont reconnu la manifestation. Et il dit, grande est la différence entre les deux. Il dit, les autres n'ont aucune part dans cette connaissance. Maintenant, on peut parler de toutes sortes de choses, on peut demander, mais pourquoi Dieu a fait ça, pourquoi il a fait... Et puis il dit, ça c'est aussi, ça reflète le fait que Dieu est aussi, enfin je ne sais pas, il donne un titre, l'éducateur des âmes, ou je ne sais pas, ou... il dit, reflète l'universalité de Dieu, l'autre, une certaine spécificité, je ne sais pas, enfin, bon, je peux le relire. Mais en fait, on peut comprendre la chose suivante. Moi, je me demandais aussi, quand j'étais jeune professeur et tout ça, et je me demandais, mais étant donné que je suis Baha'i, j'ai l'esprit quand même éclairé par la lumière de Baha'u'llah qui est infinie et tout ça, pourquoi est-ce que je dois quand même travailler comme un fou pour comprendre les mathématiques, n'est-ce pas, etc. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je n'ai pas, je ne sais pas, ce n'est pas donné, n'est-ce pas, en fait, etc., etc. Évidemment, c'est très enfantin comme façon de voir, mais quand même, j'ai connu d'autres Baha'is qui ont pensé comme ça aussi, qui ont fait cette interrogation. Alors, si on réfléchit sur le but de notre existence, je pense que c'est assez compréhensif. Si la connaissance de toute chose dépendait de son degré de foi, ça serait tellement évident que personne ne pourrait nier la manifestation, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si on était complètement ignorant de toute chose, Ou soit on a l'esprit de foi, on est éclairé par le Saint-Esprit. Autrement dit, si Dieu nous donnait tout par le Saint-Esprit, par la révélation, eh bien, il n'aura aucun mérite, soit les hommes... Ça serait tellement évident à tout le monde que ben, c'est la seule façon de faire, si vous voulez savoir, il faut tourner dans votre foi vers Dieu et tout ça. Donc, Dieu nous a créé l'esprit humain en donnant le plus d'autonomie possible pour que l'être humain puisse avoir l'illusion de son indépendance. C'est-à-dire que l'être humain, il peut quand même savoir, il peut même faire des choses très grandes, n'est-ce pas, comme les découvertes scientifiques ou les musiciens, enfin, ils ne sont pas tous croyants, n'est-ce pas, en fait. Si on voit ce que les athées ont fait, quand même, ou les non-croyants ont fait, ils ont fait dans la science et tout ça, et dans les arts, quand même, des grandes choses, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est Dieu qui leur permet de faire ça, mais Dieu donne ça gratuitement, si vous voulez. C'est-à-dire, il ne demande pas une reconnaissance spécifique de la part de l'individu pour qu'il fasse ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais l'esprit de foi est conditionné sur un acte conscient. C'est-à-dire, on ne peut pas être spirituel sans le savoir. On ne peut pas avoir l'esprit de foi dans l'inconscience. OK? C'est pas possible. C'est conscient que c'est quand on se tourne avec notre volonté vers Dieu de façon consciente. On accepte la manifestation, on obéit à ses lois, on dit les prières, etc., etc. Donc, c'est comme tourner le miroir de son âme. Au lieu de refléter des choses matérielles, on reflète des choses spirituelles, exactement l'image qu'Abdu'l-Bahá donne. Ça, j'avais caractérisé les Russes comme ça. J'ai dit, imaginez des gens qui vivent dans une poubelle, mais ils ont un miroir qui est toujours tourné vers le ciel. Et ils ne regardent que dans le miroir, donc ils ne voient que des étoiles, même s'ils vivent au fond d'une poubelle, n'est-ce pas? Mais l'homme a cette capacité, n'est-ce pas? C'est ça. En Occident, on est tellement matérialisé que nous pensons que pour avoir, disons, une vision positive du monde, il faut avoir des conditions matérielles favorables, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'on peut choisir de regarder le monde spirituel, tout simplement. Donc, aussi laid que le monde matériel puisse être, en soi, ça ne peut pas empêcher qu'on choisisse de regarder vers Dieu. Donc ça, c'est l'esprit de foi. Et c'est une différence de degré, mais encore une fois, c'est un degré immense. Okay? C'est immense. Comme les symbolismes comme de vie et de mort, de voir et les aveugles et ceux qui ont la vue et ceux qui sont aveugles, ceux qui entendent et ceux qui n'entendent pas, enfin, toutes ces métaphores sont utilisées dans tous les écrits saints. Jésus parlait des gens qui écoutaient mais qui n'entendaient pas, qui... etc. Bon. Donc, c'est un peu esquisse des cinq niveaux de l'esprit. Puis bon, voilà, je m'arrête. Et puis, on peut discuter comme d'habitude. Juste pour avoir dit ça une fois. Alors tout ça s'est expliqué dans une autre tablette d'Abdu'l-Bahá que je pensais escamoter parce que je devenais assez lent. C'est-à-dire la question de degrés ou de progrès dans l'esprit de foi. Alors, il y a sept étapes qu'Abdu'l-Bahá décrit. La première étape est l'inconscience totale. Alors ça, c'est quand on est complètement dépourvu de l'esprit de foi. C'est l'inconscience totale. Et remarquez que la vie physique est une métaphore pour ça, parce que nous partons tous de l'inconscience totale. Okay? Donc on devient conscient d'abord, par exemple, de notre mère, de nous-mêmes, de certaines sensations, etc. Notre conscience a grandi, et à un moment donné, on prend conscience du monde spirituel. Maintenant, une personne peut vivre toute sa vie, du début jusqu'à la fin, sans jamais avoir conscience du monde spirituel. Donc il peut commencer sa vie dans l'inconscience et terminer sa vie dans l'inconscience. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est quand la personne devient consciente qu'il y a un monde spirituel. Donc, ça, c'est la toute première étape dans l'esprit de foi. Donc, il devient conscient qu'il y a quelque chose au-delà du matériel, qu'il y a un monde spirituel. Et Abdu'l-Bahá décrit l'état d'âme de cette personne comme chancelant. Il dit parfois la personne aspire vers le monde spirituel, mais à d'autres moments, il aspire vers le monde matériel. Il est constamment ballonné entre le monde spirituel. Il est inconstant. Il est inconstant dans sa foi, n'est-ce pas? Il n'a pas une foi constante. Il est inconstant dans sa foi. Et disons, la plupart de la littérature des grands écrivains du monde décrit cet état d'âme. Ce qu'ils appellent l'amour sacré, l'amour profane et tout ça. C'est le thème de toute la grande littérature. Les pièces de Shakespeare, par exemple, etc. La plupart des littératures, enfin, il y a certaines littératures, bien entendu, le porno, par exemple, qui décrit l'état d'inconscience, enfin, bon. Mais la grande littérature, la meilleure littérature, ça montre quoi? Des conflits moraux, n'est-ce pas? Où les gens ont des choix moraux à faire. Est-ce que je vais tuer quelqu'un ou est-ce que je vais mentir? Est-ce que, etc. Qu'est-ce que je devais faire? Est-ce que je vais divorcer ma femme? Est-ce que je vais coucher avec cette femme? Enfin, bref, il a toujours ces dilemmes moraux qui déchirent la personne. Alors ça, c'est la deuxième étape. Il n'y a pas de dilemme si la personne n'avait aucune conscience de domaine moral. Il n'y a pas de dilemme, n'est-ce pas? Si c'est vraiment, enfin, comme certains criminels, enfin, des gens vraiment dans l'inconscience, ben, ils tuent les gens comme des mouches, n'est-ce pas? Enfin, il n'a aucun dilemme. Il a le choix. C'est-à-dire, ils peuvent décider que ça ne vaut pas la peine de tuer cette personne. Mais ce n'est pas un choix moral qu'ils font. C'est un simple choix de convenance. La troisième étape, c'est quand la personne décide qu'elle veut tourner vers le monde spirituel. À ce moment-là, la personne devient un chercheur. C'est ce que nous appelons un chercheur. Un chercheur est une personne qui sait qu'il a le monde spirituel et qui a décidé consciemment que c'est ça qu'il veut. Il peut encore chuter, il peut encore faire des péchés horribles, mais il sait qu'il fait mal quand il fait ça. C'est-à-dire, son moi inférieur peut encore le contraindre à faire des mauvaises choses, mais il veut, il est décidé, il est tourné vers le monde spirituel et il veut ça. Il veut ça. Et donc, c'est un chercheur. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est la reconnaissance de la manifestation. Et donc, on ne peut pas aller au-delà de cette étape de vrai chercheur sans reconnaître la manifestation. Quand on reconnaît la manifestation, on devient croyant. On a complété notre recherche et nous devenons croyants. Donc, est-ce que ça répond un peu à ta question? Donc, bien sûr, il peut y avoir toutes sortes de personnes qui aspirent ou qui réussissent même, enfin, selon les circonstances, peut-être à devenir des très saintes personnes, n'est-ce pas?
La question que je poserai encore, justement, mais là, c'est par rapport à ce que tu viens de dire. OK. Être chercheur de la vérité, on l'est jusqu'au... Bon, bien sûr, on est bailli en tant que tel, mais comme bailli, je veux dire... Cette recherche, on la continue dans le sens qu'on confronte toujours notre propre croyance.
Les étapes sont infinies.
C'est ça.
Les étapes sont infinies. Abdu'l-Bahá nomme 7 étapes principales, n'est-ce pas?
C'est-à-dire, mais chercheur, ça va jusqu'à la fin en tant que tel.
Ça va jusqu'à la fin, oui.
C'est bon.
Ça va jusqu'à la fin, mais il a quand même des étapes marquantes, n'est-ce pas, qui sont en quelque sorte irréversibles. C'était, ça serait quand même un peu lourd si on pouvait faire toute une éternité de recherche rien que pour retomber au point de départ, n'est-ce pas? Alors, nécessairement, il doit y avoir des étapes où on a quand même appris certaines leçons pour de bon, et on a vraiment franchi une étape, et on ne retombe jamais en bas de ça, n'est-ce pas?
Et après l'étape de chercheur, c'est quelle autre étape?
Croyant.
Croyant, et après croyant?
Vrai croyant.
Vrai croyant?
Vrai croyant, c'est la prochaine étape. Le vrai croyant, c'est la personne qui reconnaît la manifestation et qui obéit à ses lois. Ok.
Ça, c'est la cinquième, puis ensuite la sixième.
Ok. Le sixième. Le sixième, c'est, ça c'est cinq, attendez, il a...
C'est vrai croyant.
Vrai croyant. Il a l'inconscience, un. Mm-hmm. Chercheur, deux. Croyant, trois. Vrai croyant, quatre. Okay. Pas cinq, mais quatre. Ouais. Parce qu'il a trois encore, c'est ça que j'avais...
Ok.
Ok. Alors, ça c'est quatre. Ok, on est d'accord, ça c'est quatre. Alors, le cinquième, c'est ce qu'il appelle l'âme parfaite. C'est-à-dire, le fait, quel est le fait de la personne, quel est le fait d'avoir reconnu la manifestation et de se soumettre volontairement à ses lois, c'est-à-dire de choisir d'obéir à ses lois. C'est que toutes nos capacités se développent comme ils se doivent. Alors donc, cette étape de vrai croyant est le commencement d'une autre étape qui mène vers la perfection. Et la perfection n'est rien d'autre que le plein développement de toutes nos capacités. On devient, si vous voulez, parfaitement aimant, parfaitement connaissant, etc., etc. Okay? Ça, c'est évidemment une étape qui, je pense, qui va sans dire, s'accomplit dans l'autre vie, n'est-ce pas, pas dans cette vie, enfin, pour le moment.
Un exemple. Que ça serait Abdu'l-Bahá.
Abdu'l-Bahá, c'est bien entendu un exemple, oui, bien sûr.
Alors,
de la perfection.
L'âme parfaite.
C'est ça? Ça, c'est le cinquième.
Oui. L'âme parfaite, c'est Abdu'l-Bahá.
C'est ça. Donc, oui, c'est ça. Oui, mais ça, c'est étonnant. On aurait pu penser à ce moment-là que qu'est-ce qu'il peut y avoir au-delà de ça, de la perfection. Alors là, il faudrait penser à la chose suivante. Toutes ces cinq étapes se rapportent à l'individu. Mm-hmm. Et les autres.
Oui.
La communauté. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Servir.
D'accord, mais le fait d'être service, c'est... Alors, la sixième étape, c'est ce qu'il appelle le domaine de Malakout.
Ah, c'est encore au royaume.
C'est ça. C'est le domaine de Malakout. Et ça veut dire l'entrée dans le royaume de Dieu. Alors, essentiellement, c'est la société des gens qui ont atteint la perfection.
Là, c'est dans l'autre monde.
Hein? Ouais, c'est dans l'autre monde.
Ok, c'est pas sur Terre.
Non, c'est pas sur Terre, non, bien sûr.
C'est pas dans le monde physique. Mais vrai croyant, on peut passer peut-être la peine sur Terre.
Comment?
Le stade de vrai croyant.
Ben bien sûr, bien sûr.
L'âme parfaite, ça.
Mais nous acheminons tous vers ça, n'est-ce pas?
On a vers.
Plus ou moins de perfection, mais je pense que non. Je pense qu'Abdu'l-Bahá est la seule personne à avoir atteint ça vraiment dans ce monde, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y aura d'autres dans l'avenir? J'en sais rien, n'est-ce pas? Mais pour le moment, c'est dans l'autre monde, oui, bien sûr. La sixième étape, c'est le domaine de Malakout, c'est la société où c'est la dominion de Dieu. La dominion de Dieu, et ça veut dire le royaume de Dieu. Cela, c'est-à-dire, quelle est une caractéristique de l'âme parfaite? C'est qu'elle obéit à Dieu. Donc, rappelons la prière de Jésus, notre Père. Il dit, notre Père qui est au ciel, c'est que ton nom soit sanctifié, vienne, que ta volonté soit faite, terre comme au ciel. Donc le ciel, c'est là où la volonté de Dieu est accomplie. Ok. Exactement comme un roi, où tout le monde est soumis au roi et obéit absolument à tous les décrets du roi. Mais pas choix. Pas choix. Ok. Et donc, ça c'est, si vous voulez, le ciel. C'est la société des saintes. C'est la...
L'Assemblée
céleste, c'est toutes les âmes qui ont passé de l'autre côté. On fait tous partie de ça. Mais il y a simplement cet état où on a atteint une certaine perfection. Et là, on a une certaine intimité que les gens à une étape précédente n'ont pas, tout simplement. N'est-ce pas?
Peux-tu répéter, Bill, juste pour être sûr, parce que ça m'intéresse, je veux le prendre en
main. L'inconscience.
Oui.
OK. OK. On peut dire chercheur, la personne qui est conscient du domaine spirituel, OK? Oui. On peut dire chercheur et vrai chercheur, si vous voulez, pour celui qui a vraiment résolu à le faire.
Okay.
Il a croyant,
oui,
et vrai croyant,
oui,
et l'âme parfaite.
Oui.
OK. Parfait,
sanctifié, on pourrait dire pareil.
Oui, sanctifié, oui, parfaite. Ou réalisé, les bouddhistes et les hindous parlent d'une âme qui est actualisée.
OK.
Qui est complètement actualisé, qui est réalisé.
Moi, j'aime ça.
OK?
Oui.
C'est-à-dire, c'est très clair, c'est toutes nos capacités sont développées au plus haut point, n'est-ce pas?
Oui.
C'est le résultat d'avoir poursuivi la voie de vrais croyants pendant un certain temps, n'est-ce pas? Enfin, bon.
OK.
Et puis, ensuite, on entre dans le domaine de Malakut, qui est en quelque sorte l'assemblée des gens qui ont atteint la perfection. Ça ne veut pas dire que c'est une sorte de chambre close où on n'a aucune affaire avec les autres gens, parce que rappelons que cette hiérarchie est une hiérarchie spirituelle. Les gens qui sont plus évolués sont plus aimants.
Oui, c'est ça.
Donc ils sont encore plus aimants, plus sollicités auprès des gens qui sont en moins de développement. Donc ce n'est pas une hiérarchie de pouvoir comme nous avons dans le monde physique. Et le dernier domaine, c'est Jabarut, c'est le domaine de l'unité de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'en fin de compte, pour ainsi dire, nous devenons une partie de la solution au lieu d'une partie du problème. C'est-à-dire, à ce moment-là, nous devenons comme des rayons de soleil, nous devenons des instruments de Dieu. À ce moment-là, en quelque sorte, nous participons dans la divinité de Dieu, mais pas dans le sens panthéiste, mais dans le sens que, après tout, il faut que Dieu a des moyens. Pourquoi on a fait tout cet entraînement, on a monté toute cette échelle, etc.
Ouais.
On s'est perfectionné, maintenant on communie avec les autres, on entre dans la société, mais est-ce qu'on a fait tout ça pour la simple jouissance? En fin de compte, on devient un instrument de Dieu lui-même. On devient vraiment un rayon de soleil, et ça s'appelle le domaine de l'unité avec Dieu.
Ça, les manifestations seraient là.
Oui, bien sûr, les manifestations seraient là. Oui.
À leur mort matérielle.
Oui, bien sûr, ils sont toujours là, ils sont créés dans cette situation. Oui.
Donc le domaine de Malakut, c'est l'assemblée.
Tu viens quelle tablette que c'est, Sabine?
Oui, c'est la tablette des étapes de l'âme, the stages of the soul.
Et ça, on trouve ça dans quel livre?
J'ai juste une traduction provisoire en anglais.